Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Je vais commencer le cours d'aujourd'hui par un mea culpa. Lorsque je vous ai parlé la semaine dernière de l'avènement d'Icharlim et de l'Andurarum qui l'accompagna, j'ai travaillé de tête, ce qu'il ne faut jamais faire, et j'ai oublié du coup une référence essentielle qui est postérieure à Florilegium Marianum V que j'avais cité. Nele Ziegler a en effet publié dans Florilegium Marianum IX, le texte numéro 38, où il est question d'apprentie musicienne de Michelan. Zimrilim avait donné l'ordre qu'on les transfère à Tsuprum, qui est une autre ville proche de Marie, mais Warad Ilichou, son chef de musique, répondit au roi « Si ce n'est pas possible, j'ai vu dans la demeure d'Icharlim une installation Wartum. Elle est forte comme une ergastule, qu'elles y habitent. Les enseignants en sont tout proches, mais Lyr, Chebitum sont aussi toutes proches à leur disposition. » Et Nele Ziegler avait pensé que cette demeure d'Icharlim fortifiée pourrait avoir été un palais et que cet Icharlim aurait été un membre de la famille royale de Marie qui aurait occupé un trône à Michelan pendant quelque temps sans qu'on sache exactement à quel moment. Et donc, je vais rajouter une hypothèse supplémentaire. Jean-Marie Durand a montré il y a longtemps que Yardounlim avait d'abord occupé le palais de Tsuprum avant de s'installer à Michelan. Et donc, on peut penser que Icharlim a été roi à Michelan au moment où Yardounlim, qui pourrait avoir été son frère par exemple, était roi de Tsuprum. Icharlim, dont on a très peu de traces, serait mort prématurément, et ce serait à ce moment-là que Yardounlim aurait décidé de s'installer à Marie. Vous voyez que ça fait beaucoup de conditionnels, et gageons que l'avenir permettra de passer à l'indicatif. Cette mise au point faite, passons au cours d'aujourd'hui. On connaît bien l'adage médiéval, témoin passe lettre, autrement dit la preuve testimoniale est plus sûre que la preuve écrite. En Mésopotamie, il en allait bien différemment. La terminologie employée dans les contextes judiciaires est intéressante à analyser de près. Je l'ai fait lors d'un colloque organisé ici même par Thomas Römer en mai 2017, dont les actes sont encore sous presse. Et donc, je reviens aujourd'hui sur ce sujet en citant, autant que possible, des exemples qui proviennent de la haute Mésopotamie au XVIIIe siècle, mais sans m'interdire, vous allez voir, d'élargir un peu le champ géographique de mes références. De nombreux textes indiquent que les juges écoutaient les tablettes produites par le plaignant. On en a beaucoup d'exemples en Babylonie centrale, comme dans ce texte de Sippar. Le plaignant, Waratsin, apporte deux titres de propriété à l'appui de son cas, que le scribe rédacteur du texte décrit en détail. Les juges ont écouté la tablette de l'héritage que Belessounou avait donnée à Lamassi et que Lamassi a donnée à Waratsin, son fils adoptif, ainsi que la tablette de la part d'héritage d'Inboucha, la Koulmachitoum, fille d'Abou Mouakar, par laquelle elle avait reçu toute liberté de choisir son héritier et qui avait donné son héritage à Waratsin, fils de Sinmagir, son frère. Un autre exemple, lors d'un procès portant sur la propriété d'un terrain, les juges ont écouté leur tablette d'achat, autrement dit, comme nous l'avons déjà vu, leur contrat de vente. Eh bien, la situation n'était pas différente en haute Mésopotamie, comme le montre ce procès découvert à Terka et qui date du règne de Zimrilim. Yaripoum, fils d'Idini Tourmer, a porté plainte au sujet d'une maison et d'un champ. Kibridagan et le juge du roi ont rendu un verdict. Ils ont écouté leur tablette par devant les dieux Lagamal et Ikshudum. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut écouter une tablette ? Nous pensons immédiatement, c'est parce que quelqu'un la lisait à voix haute. Eh bien, le rapport entre oral et écrit n'était pas pensé dans ces termes-là en Mésopotamie. On considérait qu'une tablette avait une bouche et qu'elle pouvait donc parler. Cette façon de voir apparaît dans de nombreux textes. Par exemple, dans un procès qui se tint à Sippar, un individu qui avait vendu un terrain à une religieuse Naditoum prétendit qu'elle en avait pris plus que ce qu'il lui avait vendu. Et le texte dit, on a vérifié la surface avec la scie du dieu Shamash, une surface de 12 cycles de terrain manque selon la bouche de la tablette d'achat. Autrement dit, on a calculé la surface du terrain en présence du symbole de Shamash, dieu de la justice, et on l'a comparé avec ce qui était indiqué par l'acte de vente, nous dirions avec ce qui était inscrit, et dans des cas de ce genre, les assyriologues traduisent habituellement de manière un peu large, selon la teneur de la tablette d'achat. Mais une telle traduction large n'est pas tout à fait exacte, le mot à mot c'est selon la bouche de la tablette, et je pense qu'il faut maintenir cette traduction si l'on veut comprendre comment les juges pouvaient écouter de tels documents. Et c'est d'ailleurs explicitement dit dans ce procès découvert à Suse, je le cite, « Le chancelier Tepir, les juges et les autres ressortissants de Suse ont écouté la bouche des tablettes de partage. » Bien entendu, les Mésopotamiens ne méconnaissaient pas la différence qui existe entre l'oral et l'écrit, comme le montre l'opposition courante entre « inapim » par oral, littéralement par la bouche, et inatupim, par écrit, littéralement par une tablette. On le constate, par exemple, dans cette lettre découverte à Tel Rima, l'ancienne Qatara, la Massanie s'y plaignait à sa sœur Iltani, qu'elle lui ait répondu par un message oral, transmis par une servante. Je cite, « Tu ne m'as pas envoyé une message dans une tablette à moi destinée, c'est par sa bouche, c'est-à-dire celle de la servante, que tu m'envoies un message. » Autrement dit, voilà, quand on envoie une lettre, on attend en réponse une lettre et pas un simple message confié à une vulgaire servante. C'est ça la tonalité du message. Fondamentalement, en Mésopotamie, les écrits étaient considérés comme une parole fixée dans l'argile, comme le montre le récit de l'invention de l'écriture effectué par le roi d'Uruk Enmerkar lors de sa confrontation avec le seigneur d'Arata. Et donc on voit comment le témoignage constituait la forme essentielle de la preuve en Mésopotamie où il n'y avait pas d'opposition entre preuve écrite et preuve orale. Les tablettes délivraient un témoignage qu'on pouvait écouter. Dans un tel contexte mental, on comprend donc qu'une lettre ait pu servir de témoin. J'ai consacré un article à cette question en 2013, que j'avais intitulé « Garde ma lettre en témoignage ». C'est une citation réelle, et le sous-titre de l'article, c'était « Le rôle de la correspondance dans le système juridique mésopotamien de la première moitié du deuxième millénaire ». Et je vais y ajouter aujourd'hui deux témoignages provenant de Marie, l'un qui a été publié depuis que cet article a été publié, et l'autre est un texte qui avait été mal compris et dont je vous propose une relecture. Alors, pour commencer, une affaire très claire dans une lettre de Zuradnim, celui-ci exhortait le roi de Marie à se rendre dans la localité de Zinian pour éviter une révolte, et il achevait sa lettre de cette manière. « Voilà que je viens d'écrire à Monseigneur l'affaire que j'ai constatée, que Monseigneur fasse ce qu'il doit faire, que ma présente tablette soit conservée dans le coffre portable de Monseigneur en témoignage de mes propos. » Et donc, Zuratnim veut se prémunir ainsi contre une éventuelle accusation future si les choses tournaient mal, il avait bel et bien prévenu le roi du risque de révolte. Une autre lettre, jusqu'à présent mal comprise dans cette perspective, me paraît certaine. Il s'agit d'un message du devin Zimri Dagan, adressé à une reine. Après avoir décrit les présages observés, il termine sa lettre en ces termes « Que ma reine fasse attention à ma présente tablette et qu'elle la garde en témoignage de mon affaire à l'avenir ». Les restitutions, sur la base de nombreux parallèles, dont celui que nous venons de voir, me paraissent certaines. Krauss avait déjà observé cette personnification de la tablette, capable de témoigner, mais il avait refusé d'aller plus loin. Or, il apparaît clairement que, pour les Mésopotamiens, les tablettes étaient considérées comme vivantes, et un passage du code de Hammurabi le montre également. si une reconnaissance de dette a saisi un homme, etc. Donc, saisir un homme, c'est vraiment le geste que fait quelqu'un qui se plaint à l'égard de quelqu'un d'autre. La tablette est capable de faire cela, et l'on connaît des cas où des tablettes égarées sont reconstituées, et on disait qu'on les faisait revivre. La preuve écrite était donc en Mésopotamie considérée selon les modalités du témoignage. Une tablette était comme un témoin capable de délivrer un message par sa bouche, et donc, encore une fois, pas d'opposition formelle entre preuve écrite et preuve testimoniale. Et c'est la raison pour laquelle nous allons étudier les deux catégories ensemble. J'ai donc été amené à modifier légèrement le découpage que j'avais annoncé avant les vacances de Noël et qui figurait sur le site internet jusqu'à mercredi dernier, mais qui a été modifié depuis. Nous nous occuperons donc aujourd'hui de deux types de preuves, la preuve écrite et la preuve testimoniale, et le cours de la semaine prochaine traitera des serments et des ordalies. Nous avons déjà vu comment fonctionnait la procédure en cas de litige. La partie qui s'estimait lésée allait trouver les autorités. Celles-ci délivraient alors un dinoum. Ce que nous avons vu, on ne peut pas traduire exactement comme verdict, ça signifie qu'elles indiquaient la manière dont le cas devrait être tranché. Et pour appuyer leurs revendications, les plaignants apportaient souvent des tablettes, donc il nous faut commencer par examiner ce qu'on appelle traditionnellement l'épreuve écrite. Nous étudierons d'abord de manière générale la valeur probatoire de l'écrit, avant d'examiner plus en détail les archives juridiques conservé dans le palais de Marie. En raison du très petit nombre de comptes rendus de procès conservés en Haute-Mésopotamie, on a déjà eu l'occasion de le dire, nous n'avons guère de mentions de tablettes apportées devant des juges, mais de rares maisons privées nous montrent que les particuliers gardaient soigneusement chez eux leurs titres de propriété de la même manière qu'en Mésopotamie du centre et du sud. Un fragment de lettre inédit de Marie comporte une indication très intéressante sur l'usage des titres de propriété écrits. Je cite « À présent, tu m'as écrit ainsi. Le roi m'a donné ce champ. À présent, qu'avec ton fils, la tablette du roi m'arrive, par les dieux Addou et Shamash et par monseigneur Samsi Addou, je jure que je ne retiendrai pas cet homme. Si je retiens cet homme, et malheureusement la suite est très endommagée. » Alors on peut se demander à quoi ressemblait la tablette du roi qui est ici mentionnée. Nous avons déjà vu deux exemples de dons de terre qui ont été faits par des rois de Terka et qui sont postérieurs à la chute de Marie, qu'il s'agisse d'Itsisumuaboum ou de Shunurahamu. Mais nous avons la chance d'en posséder également un exemplaire de la même époque que ce fragment de lettres, à ceci près que le donateur n'est pas Samsi Addou, mais son fils, le roi de Marie, Yasmaradou. Il s'agit de la tablette qui a été reconstituée à partir de deux fragments, ARM 8-12 et ARM 8-19, et on y trouve l'attribution en pleine propriété d'un champ appartenant au palais, je cite, « Le champ du palais à Houtnoum, autant qu'il y en a, dont Tarim Shakim a entassé le Rakiboum, le roi Yasmaradou en a attribué la propriété à Yarimlim. Celui qui contesterait devra payer 10 mines d'argent au palais et se verra imposer un châtiment. » Suivent les noms de 22 témoins. Les 10 premiers sont qualifiés d'hommes d'Appan, les 10 suivants d'hommes de Khumsan et les 4 suivants d'hommes de Nouabou. Le dernier témoin, c'est le scribe, comme d'habitude. Celui-ci s'appelle Yahoui Addou et il précise sur la tablette que c'est lui l'arpenteur, mot à mot, le frappeur de piquet. Il s'agit d'une allusion à la délimitation de la parcelle. L'enveloppe comporte une date, l'éponymie de Tabtsili Achour, et on y trouve par ailleurs les empreintes des sceaux de 5 des témoins, alors que la tablette elle-même, que vous avez à l'écran, ne comporte ni date ni empreinte de sceaux. Il s'agit ici de l'attribution par Yasmaradou d'un champ appartenant au palais dans la région de Houtnoum, proche de Marie. Manifestement, les terres de ce secteur n'étaient pas encore attribuées, mais elles étaient devenues cultivables grâce à un ouvrage d'irrigation qui venait d'être construit par Tarim Shakim et qui est décrit sur la tablette comme un rakiboum, littéralement un chevaucheur. Selon Hervé Reculot, il s'agissait d'un canal d'acheminement de l'eau qui, dans la vallée de l'Euphrate, chevauche en quelque sorte la terrasse en surplomb. Et vous remarquez que dans ce texte, Yasmaradou porte le titre de roi qui est préposé à son nom, et malheureusement, son sceau ne figure pas sur l'enveloppe et on n'en connaît aucune empreinte. Dans une lettre assez étonnante, on voit le même Yasmaradou ordonner que des gens qui s'estiment lésés mettent par écrit la liste de leurs dommages. C'est une lettre donc de Sumuhadou. Nounouili nous avait rendu un jugement à Shubat Enlil et nous sommes ensuite partis rencontrer notre Seigneur. Lorsque nous avons exposé par devant Yasmaradou le jugement de Nounouili, nous avons dit ceci: nous sommes lésés, Rabla à nous. Yasmaradou nous a dit ceci: bon, par devant les dieux Ikshudum, la reine Lagamal et Itourmer, faites mettre par écrit vos dommages. Nous avons fait mettre par écrit nos dommages. Yasmaradou nous a répondu ainsi: faites maintenant une déclaration. Nous avons dit: que déclarerons-nous? Et lui, il a usé d'apaisement envers nous en disant: bon, faites mettre par écrit vos dommages par devant ces dieux et reprenez votre ancien, et puis c'est cassé. Il a parlé ainsi pour nous apaiser. Donc c'est une lettre d'interprétation un peu délicate. Le nom du destinataire a disparu dans une cassure, mais vu la façon dont Yasmaradou y est mentionné, Jean-Marie Durand, qui a publié ce texte, pense que la lettre était adressée à Zimrilim, au début de son règne. Mais elle rapporte des faits qui se sont déroulés du temps du royaume de Haute-Mésopotamie, ce que la référence à Shubat Enlil rend certain. Malgré tout, nous ignorons tout de ce Nounouili qui rendit un jugement remis en cause par Sumuhadou et une autre personne dont le nom n'est pas donné. La nature des dommages qu'ils ont subis n'est pas davantage précisée par le document. Et la procédure est, il est vrai, assez étonnante. Sumuhadou et l'autre personne lésée doivent mettre par écrit la liste des dommages qu'ils estiment avoir subis devant trois divinités. Ikshudum et Lagamal sont les dieux de la ville de Terka, tandis qu'Itourmer est le dieu de la ville de Marie. Si la restauration du texte est correcte, Yasmaradou aurait souhaité que cela suivît par une déclaration, on peut supposer sous serment, mais il s'inclina devant le refus des intéressés et leur accorda ce qu'ils demandaient, rentrer en possession de leur ancien bien. On aimerait évidemment posséder un texte tel que la tablette écrite devant les dieux à cette occasion. La procédure est, à ma connaissance, sans parallèle. Le seul exemple d'archives privées retrouvé in situ dans une maison provient de Terka, dans le chantier C. Ce quartier a été fouillé par l'équipe de Giorgio et Marilyn Buccellati en 1977 et 1978. À côté du temple de Ninkarak, on a dégagé une maison qui n'était que partiellement conservée en raison de l'érosion due à l'Euphrate qui coule en contrebas de cette partie du site. Cette demeure a fait l'objet de la thèse de Marc Chavalas, restée inédite. Les textes ont été publiés par Olivier Rouault en 1984 et ils se sont révélés constituer les archives d'un individu appelé Pouzouroum. Une synthèse sur ce secteur a été publiée récemment par Amanda Podani, qui tient compte à la fois des textes retrouvés par les fouilles régulières et de ceux découverts auparavant, fortuitement, par les villageois. Les archives de Pouzouroum datent du moment où l'ancien royaume de Marie avait repris son indépendance au moment de la grande révolte qui secoua le royaume de Babylone en l'an 8 de Samsu-iluna, le fils de Hammurabi. L'inventaire en est le suivant. On a un contrat d'achat d'un champ de 3 arpents, voisin d'une parcelle que Pouzouroum possédait déjà, à une prêtresse de Dagan, pour un prix de 12 cycles d'argent. On a un achat d'un champ de 5 arpents qui appartenait à Sinaboucha pour 24 cycles d'argent, l'achat de deux champs pour un total de 9 arpents appartenant à Yassiel pour 31 cycles et demi d'argent, l'achat d'un champ de 5 arpents appartenant à Itsidami pour 25 cycles d'argent, l'achat d'un terrain nu en ville d'à peu près 70 mètres carrés qui appartenait à Yasmar Dagan, et enfin l'achat d'une prairie inondable en contrebas de la ville de Terka appartenant à Idin Kaka, fils de Bin Nikoum, pour 20 cycles d'argent et 5 ougars de grain. Ce contrat présente deux intérêts majeurs. C'est d'abord un des rares cas où l'on voit le prix de vente être versé en partie en argent et en partie en nature. De tels textes sont très importants dans la mesure où ils confirment qu'en principe, c'était bien l'argent qui circulait lors de telles transactions. L'argent n'était pas simplement une unité de compte, comme certains en avaient émis l'hypothèse. Et on peut en trouver encore un exemple dans une lettre de Machia, encore inédite, au sujet d'un tiers de mine d'argent due par Binnoum, dont Monseigneur a parlé à Nana Dingir en ces termes « reçoit son argent », que Monseigneur se réjouisse. Il a reçu de lui son argent, il a reçu un tiers de mine selon les poids du marché. Si Monseigneur lui a donné sa parole concernant son champ, que Monseigneur lui donne pleine satisfaction, son argent est reçu. Donc ici, on a affaire non pas à un don de terre par le roi, mais à une vente de terre par le roi, et Machia indique à Yasmaradou que le prix convenu d'un tiers de mine a bien été versé par l'acquéreur, et donc que le transfert du champ peut bel et bien avoir lieu. Machia précise même que l'argent a été pesé selon les poids du marché. Ce détail montre bien que ce sont des fragments d'argent qui ont utilisé, et on notera d'ailleurs qu'on a retrouvé à Terka même une jarre pleine de résidus d'objets en argent. Eh bien, c'était ce genre de débris qui était pesé au moment d'une transaction et qui passait de l'acheteur au vendeur. Alors revenons à Bimes 16, numéro 6. Ce contrat a en effet un autre intérêt. Il se trouve que dans la maison de Pouzouroum, on a également retrouvé le texte numéro 8, contrat d'achat par Binnikoum d'une prairie inondable en contrebas de la ville de Terka. Or, ce Binnikoum est le père du vendeur du contrat numéro 6. Autrement dit, on a ici un bel exemple de transmission des titres de propriété. Quand Idin Kaka a cédé le terrain à Pouzouroum, il lui a transmis la tablette par laquelle son propre père avait acquis le terrain. Et on voit donc que sur ce point, les usages sur le Moyen-Euphrate étaient exactement semblables à ceux qui ont pu être repérés en Mésopotamie centrale et méridionale et qui ont donné lieu à des études de moi-même d'abord et puis ensuite de l'équipe de Tel Edder, et j'affiche à l'écran l'essentiel de la bibliographie sur ce sujet. Donc on voit bien que ce qui était conservé par Pouzouroum dans sa maison, c'était avant tout ses titres de propriété, mais il y a une exception, un contrat de prêt par le dieu Shamash à Pouzouroum. Je le cite, « 5 cycles et demi d'argent capital du dieu Shamash, Pouzouroum, fils de Namishi, a reçu, il rendra l'argent et son intérêt au dieu Shamash quand il sera en bonne santé », et on a ensuite la date. Cette clause de remboursement, Ina Chalmou ou Baltou, qu'on peut traduire en bonne santé, se trouve dans d'autres contrats de prêt par une divinité, et on peut la comprendre de deux façons, qui ne sont d'ailleurs pas mutuellement exclusives, médicalement d'un côté, financièrement de l'autre. Vous voyez que le prêt est malgré tout un prêt à intérêt, et donc le caractère charitable d'un tel prêt par une divinité, réside avant tout dans le fait qu'il n'y a pas d'échéance fixe. Et je vous renvoie à ce sujet à l'article du regretté Klaas Venhoff de 1987 et à celui que j'ai publié ensuite en 2005. Alors, question, pourquoi cette tablette a été retrouvée dans la maison de Pouzouroum ? En principe, les créances étaient en effet conservées par les prêteurs, pas par les débiteurs. Mais Giorgio Buccellati a fait remarquer que la tablette avait été coupée en deux dans le sens de l'épaisseur. Et quand on reconstitue une tablette de cette manière-là, on parle de joint sandwich dans notre jargon d'un sériologue. C'est encore 11h25, donc vous pouvez tenir. Il a interprété donc le fait que la tablette était cassée en deux, manifestement volontairement, comme le signe que la dette avait été remboursée. Et nous savons en effet que lors d'un remboursement, la créance devait être brisée, mais notre exemple signifie qu'en outre, les morceaux étaient remis par le créancier au débiteur comme preuve que sa dette avait été acquittée. Tous les textes de Puzurum sont datés du roi Yadirhaboum, qui fut vaincu par Samsuiluna de Babylone en l'an 27, comme en témoigne le nom de l'année suivante, je cite, « année où le roi Samsuiluna, sur l'ordre d'Enlil, et grâce à l'habileté et à la force que le dieu Marduk lui a donnée, vainquit Yadirhaboum, Emutirurshana, roi qui lui était devenu hostile, et les écrasa avec son arme féroce. » En dépit de cette victoire, le roi de Babylone ne put s'emparer durablement de la région de Terka, où la dynastie locale poursuivit son histoire jusqu'à l'époque du Mitanni. Alors, que retenir de ce cas ? Eh bien, la question, c'est de savoir si la destruction de la maison correspond à l'attaque de Samsuiluna, ce qui n'est pas certain. Mais en tous les cas, on voit que Puzurum gardait soigneusement chez lui ses titres de propriété qui pourraient éventuellement lui servir de preuve au cas où un de ses biens lui serait contesté. Les contrats de vente n'étaient mis par écrit que lorsqu'ils portaient sur des biens immobiliers, on en a vu pas mal d'exemples, et aussi des esclaves, on en a déjà vu aussi. Mais si la vente d'un autre bien était contestée, on ne pouvait produire de titre de propriété. Il fallait alors recourir au serment, comme le montre cette lettre inédite d'Iliassoum, adressée à Yasmaradou. Le porteur de la présente tablette est allé trouver le roi, c'est-à-dire Samsiadou, en disant « J'ai payé un âne à Marie et je l'ai pris. Orlaoum, de façon incorrecte, m'en a privé. » Et le roi lui a rendu un verdict en ces termes, que l'acheteur de l'âne jure à propos de son achat que l'ancien propriétaire de l'âne remplisse d'argent la balance avec laquelle il a pesé et que l'ancien propriétaire de l'âne emporte son argent. Et la lettre se termine en disant « C'est sur l'ordre du roi que j'ai fait porter la présente tablette à mon seigneur ». Donc, la teneur du serment n'est pas explicitement indiquée, mais manifestement, l'acheteur devait déclarer sous serment quelle somme d'argent il avait versée, et Samsiadou a décidé que la vente devait être annulée. Donc, le vendeur devait restituer à l'acheteur la somme qu'il avait reçue et reprendre possession de son animal. Et vous noterez au passage la mention de la balance qui a servi à peser l'argent versé lors de la transaction, ce qui corrobore ce que nous avons dit il y a un instant sur la circulation du métal précieux. Il nous faut maintenant prendre en considération les textes juridiques qui ont été retrouvés dans le palais de Marie. Et au-delà d'un simple bilan, il faut se poser la question de leur raison d'être dans ce bâtiment. Si certains documents sont directement liés aux activités du palais, d'autres proviennent manifestement d'archives familiales. Donc, on a d'abord des textes qui sont manifestement à leur place dans le palais, et pour commencer, les textes de cautionnement. En voici un exemple. Vous avez une liste de noms propres. Tous ces gens-là se sont portés garants de Yatsiel, fils de Belatoum. Si Yatsiel, fils de Belatoum, disparaît, s'enfuit ou cesse de travailler, ces personnes devront verser 10 mines d'argent au palais et devront donner satisfaction au roi. On a pour finir 8 témoins et la date. Et donc il est logique que le palais ait conservé de tels textes auxquels il pouvait avoir recours au cas où la personne s'enfuirait et où le mécanisme de la caution devrait être activé. La même chose vaut pour les cautions de prêt, et un texte inédit est très explicite sur ce point. La caution de Soumou Yassim pour 16 mines de tiers d'argent et 8 mines d'argent, Sinili, et puis vous avez ensuite toute une série de noms propres, l'ont prise. S'il n'a pas pesé d'ici 10 jours l'argent de la bouche de la présente tablette, ils reconduiront Soumouyassim au palais. Si Soumouyassim ne rend pas au palais son capital, ces hommes devront peser au palais l'argent de la bouche de la présente tablette. Et vous avez ensuite une date. Donc on a affaire à une date considérable de Soumouyassim à l'égard du palais, plus de 24 mines d'argent avec deux qualités différentes. On ignore la raison d'être d'une telle dette, mais elle valut manifestement à Soumouyassim d'être mis aux arrêts dans le palais. Et donc vous avez ce groupe de 14 personnes qui a accepté de se porter caution pour qu'ils puissent en sortir. Mais cette libération sous caution n'a d'autre but que de permettre à l'intéressé de réunir la somme qu'il doit au palais. Et vous aurez remarqué donc au passage la mention à deux reprises dans ce texte de l'expression « la bouche de la tablette ». On a également retrouvé dans le palais quelques créances. On en a déjà examiné lors des cours antérieurs les deux principaux exemples. La créance de Yardoulim sur des individus qui allaient acheter de l'étain à Eshnouna, et d'autre part, le prêt par le roi Zimrilim d'argent au roi Yaminite Yasmaradou. Vous vous rappelez, c'est le texte où Yasmaradou refuse absolument de vendre un champ pour rembourser. Mais c'est évidemment très peu. On peut supposer que pour le reste, eh bien, les tablettes ont été détruites au moment du remboursement et éventuellement les morceaux remis aux débiteurs. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas dans le palais. Cependant, la majorité des textes juridiques retrouvés dans le palais ne concernent pas le roi de Marie, mais faisaient partie à l'origine d'archives privées ou d'archives familiales. Le plus grand nombre remonte à l'époque de Yasmaradou. On a d'abord le cas de Yarimadou et de son fils Yatour Hal, qui compte pas moins de 14 tablettes. Il s'agit avant tout d'acquisition de terres, 7 tablettes pour Yarimadou et 2 encore inédites, pour son fils Yatour Hal, ou d'esclaves, une tablette, d'échanges de terrain, d'eux, ainsi que de prêts. Et on relève également un procès, mais qui est très mal conservé. Alors comment expliquer la présence de cette tablette dans le palais de Marie? Eh bien, il s'agit en fait d'une famille qui était implantée à Appan, une lettre de Hadoudouri à Zimrilim donne un indice de la façon dont ces tablettes ont été transférées dans le palais de Marie. La reine mère écrit à son fils « J'ai inspecté les avoirs de l'épouse de Yarimadou et de ses enfants, or voici ce qu'elle a déclaré. Convoque Askoudoum, c'est Askoudoum qui avait donné la bourse d'argent à Yarimadou. » En outre, un de ses enfants a dit ceci, « Mon père, après avoir scellé une bourse d'argent, l'a donnée à Yaoussaddou. Voilà ce que la femme et son fils m'ont déclaré, je n'ai rien pu établir comme richesse cachée. » Yarimadou aurait donc été suspecté de détournement de fonds, et à ce titre, son épouse et ses enfants auraient vu leurs biens confisqués et en même temps leurs archives. Et donc, on a maintenant une idée de l'implantation géographique de cette famille. C'est la ville d'Appan, légèrement au nord de Marie. On s'en doutait déjà avec le texte ARM 8.11, où un groupe de 5 personnes formées d'habitants de Appan, ainsi que 8 autres personnes en transhumance dans la steppe, appartenant au même clan, attribuaient un champ à Yarimadou. Et on a par ailleurs le texte ARM 8.12+19 qui montre que le plus grand nombre de témoins dans ce texte de don d'un champ du palais à Yarimadou par Yasmaradou était formé par des gens d'Appan. Et cette implantation de Yarimadou à Appan est confirmée par une lettre d'Itourasdou à Zimrilim. Elle montre en effet que la maison de Yarimadou à Appan est à la disposition des autorités. Je cite, C'est au début du règne de Zimri-Lim, Itourazdou était en poste à Mari, et il écrit ceci au roi: « Je suis en train d'agencer le travail de la muraille d'Appan. Or, je n'ai pas à ma disposition de vantaux à placer sur le devant de la porte de la ville. Maintenant, si mon seigneur m'envoie un message, il y a des vantaux dans la demeure de Yarimadou et dans des maisons de particuliers. Après examen, je voudrais prélever des vantaux qui soient bien, alors je pourrais les placer sur le devant de la porte de la ville. Tant que mon seigneur ne m'aura pas envoyé de message, sans la permission de mon seigneur, je ne prélèverai pas un seul vantail de la maison d'un particulier. » Donc, la fin montre que Itourazdou pouvait déjà mettre la main sur les portes de la maison de Yarimadou, d'où la suspicion de confiscation des biens de Yarimadou que j'ai déjà mentionné. Reste à savoir si ce Yarimadou doit être identifié au haut dignitaire de l'époque de Samsiadou, qui, après la mort du grand roi, se retrancha dans la ville de Karat. C'est assez vraisemblable, et donc on aurait un haut dignitaire de l'époque de Yasmaradou, dont les biens auraient été confisqués par Zimri-Lim peu après son avènement, et dont les archives auraient été transportées depuis sa maison d'Appan dans le palais de Mari. On a d'autres dossiers, celui de Habdou Madagan, qui comporte 7 contrats de prêt, dont 2 encore inédits, et là on ne sait pas pourquoi les tablettes se sont retrouvées dans le palais. On a également un lot de 2 tablettes relatifs à un certain Yahatiel, qui date également du temps de Yasmaradou, un contrat où il est adopté par un couple et un contrat où il achète un esclave à un soutéen, que j'avais mentionné lors de notre deuxième cours. Et puis, on a également le cas de la famille Mekiboum, qui est encore plus compliqué. On a 3 tablettes, un prêt de 10 cycles d'argent, un autre prêt du même genre, qui est également daté de l'éponyme Ariaya, fils de Takigi. Et puis, on a un procès. L'épouse de Mekiboum avait confié des biens précieux à un personnage qui nie avoir reçu quoi que ce soit en dépôt. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, on a l'empreinte de sceau d'un serviteur d'Ibalpiel, donc vraisemblablement le roi d'Eshnouna, Ibalpiel II. Alors ce petit lot fait doublement problème, en ce qui concerne sa date d'une part, son origine géographique d'autre part. On note l'empreinte d'un sceau d'un serviteur d'Ibalpiel II, et aussi la présence d'un témoin dans un des textes qui s'appelle Warad Tishpak, ce qui pointe donc vers le royaume d'Eshnouna. Mais on ne sait pas pourquoi ces tablettes ont abouti dans le palais de Mari. Et puis on a également des textes qui datent du règne de Zimri-Lim. Dans le cas de Warad Ilishu, on possède un texte où l'on indique que des juges ont voulu établir son patrimoine, et cela explique la présence dans le palais du contrat de mariage de son fils Balouishtar avec Ramadoum, un texte inédit. La question était de savoir si les 2 femmes esclaves mentionnées dans le contrat de mariage faisaient partie des biens de Warad Ilishu. Eh bien non, ces 2 esclaves appartenaient en propre à l'épouse de Balouishtar. Et le dernier lot important, c'est celui rattaché à un homme qui s'appelle Dada. On a 15 contrats de prêt où les créanciers sont toujours le dieu Shamash et cet individu nommé Dada, et on ne sait pas pourquoi ces tablettes ont abouti dans le palais. Donc au total, on peut établir dans quelques cas que la présence de l'eau d'archives familiales dans le palais a été lié à une action judiciaire. On peut supposer qu'il en était de même dans les autres cas, mais on n'en est pas sûr. Du moins, est-il certain qu'il ne s'agit jamais des archives de personnes travaillant dans le palais. On ne possède, par exemple, aucun texte des archives personnelles de Mukanishoum, l'intendant de Zimri-Lim, mais seulement des documents qui sont liés à ses activités pour le compte de Zimri-Lim. Vous voyez donc que la preuve écrite était un élément très important dans la vie judiciaire de la haute Mésopotamie au XVIIIe siècle. Mais le paradoxe, c'est qu'une bonne partie des contrats écrits étaient dévolus à la liste des témoins présents lors de la rédaction du texte. Voyez ce contrat d'échange de terrain, ARM 8.8, on repère facilement devant les témoins le signe igi qui signifie par devant, eh bien, les trois quarts de la tablette sont occupés par la liste des témoins. C'est un cas un peu extrême, mais souvent, la liste des témoins occupe la majorité du revers. Dans la correspondance, de fait, nous voyons le rôle essentiel qui était celui des témoins. Alors on va d'abord regarder dans quelle occasion on avait recours au témoignage, avant d'analyser la procédure qui était alors suivie. On pouvait avoir recours au témoignage pour confirmer ce qui avait été mis par écrit, mais aussi pour statuer sur des contrats qui ne l'avaient pas été. Des témoins pouvaient aussi confirmer le statut d'un individu, et enfin, les témoignages servaient à établir des délits qui, par nature, ne laissent pas de traces écrites, comme la complicité de rébellion, l'adultère, etc. Dans certains cas, une transaction avait eu lieu, un contrat avait été mis par écrit, mais il fallut, par la suite, du fait d'une contestation, avoir recours à des témoins. C'est ce que montre notamment une tablette tout à fait particulière du fait de sa place chronologique. Elle a en effet été rédigée après la disparition de Zimrilim, puisqu'on y fait allusion à son règne au passé. Alors je ne vais pas m'attarder sur cet aspect du texte qui a été étudié dans Florilegium Marianum 5 où j'ai publié ce texte. C'est une confirmation de propriété sur un champ. Je cite, « Les fils de Shudagan avaient revendiqué sous le règne de Zimrilim un champ de 10 arpents appartenant à Isharlim, le... » Et puis là, il y a un nom de métier. « Ils avaient prêté devant Itourmer le serment du dieu et ils avaient confirmé en parole. Ils ont détenu ce champ une deuxième fois par devant Itourmer. Ils l'ont confirmé dans le temple par devant Itourmer et Anunitum. » Et ensuite, on a une liste de 19 témoins. Et puis, le texte s'achève par cette indication, ces hommes se sont tenus dans la taverne pour la rédaction de cette tablette. Donc le différend portait sur un champ de 10 arpents, qui était apparemment détenu par un certain Isharlim, donc un homonyme du roi dont j'ai parlé au début du cours, et qui était revendiqué par les fils de Shudagan. L'affaire s'est passée en deux temps. Un premier procès dans le temple d'Itourmer leur permit de récupérer le champ, mais il y eut besoin d'une confirmation, sans que le texte précise pourquoi, mais on peut penser que c'est lié au nouveau contexte politique à la suite de l'occupation babylonienne. Et la confirmation se fit par devant Itourmer et Anunitum, et ce qui est intéressant, c'est que parmi les témoins, on relève la présence de deux prêtres Shangoum, qui étaient sans doute liés à chacune de ces divinités. Et vous voyez la distinction des lieux qui est opérée par ce texte. La confirmation se fait par devant Itourmer et Anunitum, donc manifestement dans un temple. En revanche, la rédaction de la tablette a été effectuée dans une taverne, mais les 19 témoins étaient là pour vérifier que ce qui était écrit correspondait bien à ce qui avait été déclaré sous serment dans le temple. Les témoignages étaient d'autant plus importants dans les cas où les transactions s'effectuaient sans le recours à l'écrit. Tel était le cas lorsque la vente portait sur d'autres biens que des biens immobiliers ou des esclaves, par exemple lorsqu'il s'agissait d'animaux. Et on voit ainsi Samsiadou écrire à son fils Yasmaradou « Arwiyoum m'avait donné 2 mines d'argent. Contre cet argent, je lui avais vendu 200 moutons. » À l'heure actuelle, Zahanoum dit « J'avais donné de l'argent à Arwiyoum pour 200 moutons en lui disant « Tu porteras cet argent au roi ». Aujourd'hui, il faut que se produisent des témoins de Zahanoum comme quoi c'est lui qui a donné cet argent à Arwiyoum et Zahanoum doit prêter serment par les dieux s'il veut s'approprier ces 200 moutons que je lui ai vendus. Alors la formulation, comme toujours, est un petit peu compliquée, mais on voit que Samsiadou avait accepté de vendre 200 moutons à un certain Arwiyoum contre le versement de 2 mines d'argent, ce qui d'ailleurs n'est pas beaucoup puisque ça fait un prix unitaire de 0,6 cycles, alors que souvent un mouton coûte un cycle. Et il s'avère que les 2 mines d'argent appartenaient en fait à un certain Zahanoum, Arwiyoum servant simplement d'intermédiaire. Et donc Samsiadou charge son fils de régler la situation. Il devait s'assurer que les témoins confirmeraient que l'argent appartenait bien à Zahanoum, mais ça ne suffit pas, il faut aussi que Zahanoum lui-même prête serment. Nous avons déjà vu le recours à des témoins pour établir le statut d'un esclave dans une lettre de Yantakum à Yasmaradou. Je leur ai imposé un serment par le dieu Ashtakuwa. Ils ont donné leur témoignage en prêtant un serment du dieu dans le temple d'Ashtakuwa et ils ont établi le statut de l'esclave. Alors ce qu'on ne sait pas du tout, c'est pourquoi ce temple d'un dieu très mal connu a été choisi en l'occasion. Le témoignage servait aussi à établir des délits qui, par nature, ne laissent pas de traces écrites comme la complicité de rébellion. C'est ce que semble montrer cette lettre de Yassidagan à Zimrilim. Un certain Idinannu avait appris que deux chefs yaminites qui s'étaient rebellés contre Zimrilim, Sumudabi et Dadi Hadoun, étaient partis en exil, mais avaient laissé des enfants qui étaient en nourrice dans le royaume de Mari. Idinannu se dirigeait vers chez Monseigneur. Je l'ai rencontré à Manuhattan et il m'a parlé en ces termes. J'apporte chez notre Seigneur des propos que j'ai entendus. J'ai dit, expose-moi ces propos, que je les apprenne. Il a ainsi exposé, pardon pour la faute d'orthographe, ses propos devant moi. Des messagers de Sumudabi vont souvent chez Yatarum, le maire de Ziniyan. Dans sa maison, on allait un fils de Sumudabi. En outre, on allait chez un particulier un fils de Dadi Hadoun. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai dit, lorsqu'on fera prêter un serment par le Dieu, s'il y a des témoins à charge contre cet homme et que devant les dieux, ils frappent sa ou leur tête, on mettra au fer cet individu et avant toute chose, je l'amènerai chez mon Seigneur. Voilà pourquoi j'ai renvoyé cet homme, c'est-à-dire Idinannu, à Ziniyan. Mon Seigneur en est informé. Le geste des témoins n'est pas certain en raison d'une cassure. Il pourrait consister à frapper la tête d'une personne pour la désigner comme coupable, mais il pourrait aussi frapper leur propre tête, ce qui serait une façon symbolique de mettre leur vie en jeu en cas de parjure. De façon plus sûre, on peut commenter le mot « mukinum » qui est employé dans cette lettre. Au premier millénaire, c'est le terme courant pour « témoin ». Et il a remplacé « shiboum ». Mais on a désormais plusieurs références à Marie qui montrent qu'à l'époque paléo-babylonienne, ce mot décrit spécifiquement ce que nous appelons un témoin à charge. Parmi les délits qui sont commis en principe de manière cachée, l'adultère figurait déjà en bonne place dans la Mésopotamie antique. Et la seule preuve possible pouvait être fournie en cas de flagrant délit et grâce à des témoins. Alors on a une lettre de Marie qui révèle une situation de ce genre. « Waraya, le marchand, est venu me trouver disant « J'ai surpris un serviteur du palais, un garde, avec ma femme. » Je les ai liés avec une corde et je les ai fait sortir pour venir te trouver. De plus, les gens qui les ont saisis avec moi sont mes témoins. J'ai enquêté concernant cette femme et puis la suite de cette lettre est lacunaire. C'est un grand classique du droit mésopotamien. Dans la thèse de Sophie Lafont, vous pourrez en trouver d'autres exemples. Et ça n'est pas sans rappeler la célèbre scène mythologique de Vulcain jetant un filet sur son épouse Vénus en compagnie de son amant Mars, déclenchant le fameux rire homérique des autres dieux. Un autre cas a été publié récemment. Manifestement, le Yatarum, que nous venons de voir et qui s'était compromis avec le chef yaminite Sumudabi, ne se contenta pas de protéger le fils de celui-ci en le confiant à une nourrice. Il s'intéressa aussi de près à la fille de Sumudabi, de très près, je dirais même de trop près. Bref, les amants furent surpris en flagrant délit et dénoncés par Yassidagan à Zimrilim, qui lui répondit ainsi, donc c'est le roi de Marie qui écrit cette lettre, « J'ai pris connaissance de la tablette de toi que tu m'as fait porter. Tu m'annonçais que la fille de Sumudabi avait été surprise avec Yatarum et que ses témoins à charge l'en avaient convaincu par devant les dieux. Maintenant, une fois que tu en auras fini avec le serment par le dieu à faire prêter, lorsqu'on aura détaché Yataroum pour l'envoyer chez Soumoudabi, selon le message de Soumoudabi, pour le remettre à un tel, le messager de Soumoudabi, tu amèneras avec toi ces témoins à charge, ils iront à Bitakaka, mais rejoins-moi à Iltoum pour que je sache ce qu'ils ont dit. Et vous voyez qu'on retrouve ici le même terme « moukinou » que dans l'affaire précédente, donc ce sont des gens qui sont bel et bien des témoins à charge. S'agissant des témoignages et des témoins, la première question à se poser est de savoir comment les témoins étaient choisis. On verra ensuite qu'il était souvent nécessaire qu'ils se déplacent en fonction du lieu où le procès devait se tenir. On pourra se demander ensuite ce qu'on pouvait faire en l'absence de témoins, et on verra que le recours à des témoins était parfois assez étrange. Nous n'avons pas de texte qui nous expliquerait comment étaient choisis les témoins. On peut le regretter, mais c'est ainsi. De manière générale, en ce qui concerne la Mésopotamie, il faut bien l'avouer, nous ne possédons presque jamais de texte qui nous explique quoi que ce soit. C'est à nous, patiemment, de découvrir les façons de faire, les raisons sous-jacentes à telle ou telle pratique. Et dans le cas de la liste des témoins, dans des contrats, eh bien, il nous faut avoir recours à de patientes études prosopographiques. C'est rendu possible par le fait que bien souvent le nom des témoins est accompagné d'un complément, le nom de leur père, parfois leur titre. Dans le cas où nous avons le nom seul, eh bien, tout espoir n'est pas perdu car le sceau d'un témoin peut avoir été imprimé et la légende du sceau nous donne le plus souvent le nom du père de l'individu, parfois son titre, parfois les deux. Par exemple, le texte d'adoption ARM 8.1, la plupart des témoins de la liste sur le texte, on n'a que leur nom, mais la collation de l'enveloppe m'a permis de déchiffrer les légendes de plusieurs sceaux, dont celui d'Ikshoud Apachou, qui était le chef du cadastre de la région. Lorsqu'une affaire concernait deux royaumes, eh bien, il pouvait arriver que le principal intéressé doive voyager avec ses témoins. C'est ce que laisse entendre cette lettre de Hadnourabi, qui fut roi de Qatara, adressée à Zimrilim. L'homme porteur de la présente tablette a épousé la jeune dame, Tadalatoum sans doute, pour sa terratoum, il a donné une servante et quatre cycles d'argent en présence de Tabcharouma, de Zoukanoum le marchand et de Haklou Barli. Écoute ses propos, rends-lui justice selon la déclaration, littéralement la bouche de ses témoins, et laisse aller son épouse. L'éditeur du texte avait traduit Anapi Shibutishu par « sur la foi de son témoignage ». Mais on peut difficilement être partie prenante et témoin, et il me paraît clair qu'ici, shibutum ce n'est pas le mot abstrait témoignage, mais une autre forme du pluriel du mot shibum témoin qui se rencontre parfois. Et autrement, Hadnourabi se serait abstenu de nommer les trois individus témoins de la remise de la terratum. Si le roi de Mari doit intervenir, c'est sans doute que le père de la femme, ressortissant de son royaume, refusait de livrer sa fille au mari, bien que celui-ci ait livré la terratum. Une lettre de Tel Leilan, dont l'adresse est perdue mais qui a été envoyée par un roi à un autre, nous offre un autre exemple où des témoins doivent se déplacer. À propos du cas de Kazuri, ressortissant de tel endroit, à propos duquel tu m'as écrit, j'ai examiné son affaire et son adversaire était présent. Selon ma missive, tu lui as donné satisfaction. Il lui a fixé une échéance à 3 jours en disant « Amène tes témoins » et puis la suite est cassée. Donc on voit que le prévenu disposait de 3 jours pour faire venir ses témoins dont il devait espérer qu'il lui permettrait de l'emporter sur son adversaire. Et je citerai un troisième exemple, une lettre de Nikmiadou à Tilabnou que nous avons déjà lue il y a 2 semaines. À propos du cas du marchand Assiroum, j'ai précédemment fait se tenir en ma présence ses témoins, des marchands et de simples sujets, et je leur ai procuré un procès conformément aux déclarations de ses témoins. Et puis vous rappelez la suite, à présent, si tu veux annuler mon jugement, annule-le. À présent, voici que je viens de t'envoyer ces témoins et les marchands, il y a une lacune, et à la fin de la lettre, fais se tenir ces témoins et que Assyroum reçoive ton verdict en ta présence, conformément aux déclarations de ces témoins. Et vous vous rappelez ce que j'avais dit dans un cas de ce genre, l'idéogramme Loudeux-Chouguimèche ne désigne pas, comme ailleurs, les anciens d'une localité, mais ici, il s'agit bien des témoins. À l'époque de Yasmaradou, il arrivait que des affaires doivent être tranchées à Shubat Enlil, la ville où résidait Samsiadou. Les témoins devaient donc se rendre dans cette ville, comme le montre cette lettre. Un tel et Sinidinam ont saisi l'Adinoum d'Apan et ses témoins. Monseigneur doit les expédier à Shubat Enlil. La question se pose de savoir ce qu'on faisait lorsqu'il n'y avait pas de témoins. Et une lettre adressée à Yasmaradou par Idinanou nous donne une solution possible à propos du procès de Yantinoum, à propos duquel Monseigneur m'a écrit en ces termes. « Remets ses adversaires à sa main qu'il les conduise à moi. Son voleur est en fuite. Maintenant, la prostituée Yaharimtoum, que le voleur en fuite faisait entrer chaque fois dans leur maison, Yasmaradou, et puis il y a sept lignes qui sont très endommagées ou qui ont complètement disparu, et la lacune se terminait par une citation, manifestement, et la jeune fille ne cessait d'entrer chez ses maintenant, par devant Yasmaradou, il fait pression sur moi pour confirmer qu'il s'agit bien de celui-ci, disant « c'est mon voleur ». J'ai dit « fais une convocation, de sorte que ses témoins à charge confirment que c'est lui, afin que j'expédie ses témoins à charge et cet homme chez Monseigneur ». Et l'auteur de la lettre poursuit « il n'y a pas de témoins contre lui ». Mais vu que Monseigneur m'a envoyé une lettre en termes énergiques, voilà que j'envoie chez Monseigneur l'Aharimtoum et l'homme qui l'accuse, que Monseigneur juge le jugement de cet homme, et puis il manque une ligne. Donc vous voyez une fois de plus le terme Mukinoum employé pour décrire des témoins à charge. La lettre emploie par ailleurs le verbe palaloum, qui est surtout attesté en paléo-assyrien, avec un sens que le dictionnaire de Chicago jugeait incertain. Et ici, le contexte donne un sens d'accusé assez vraisemblable. Et l'accusation de Yantinoum, c'était manifestement que le voleur procurait à des individus les services d'une call girl, comme nous dirions aujourd'hui, et profitait de ce qu'ils étaient, nous dirons, occupés, pour commettre des vols. Mais il n'y avait pas de témoins, et donc, finalement, nous ne savons pas ce qui s'est produit. Et je terminerai par une histoire abracadabrantesque. Elle est connue par une lettre du chef nomade Ibal Piel, qui dénonce la conduite d'un certain Bazoum, qui s'est rallié au roi du Zalmakoum, Bounou Mahadou, qui était à l'époque un ennemi du roi de Marie. C'est un récit qui se passe de tout commentaire. Le maire d'Ardouane du Zalmakoum est venu à Der dire ceci à Haman. Les porteurs de Bazoum vont chez Bounou Mahadou. Déjà une fois, Bazoum a fait porter à Bounou Mahadou une étoffe et une chemise. Bounou Mahadou a dit « Vraiment, j'ai vu que Bazoum parle avec moi sincèrement ». Voilà ce que cet homme a raconté à Haman. Le lendemain, Haman a placé trois hommes, Dada, Yashublim et Yaptunael, derrière une porte double pour être témoins de ses paroles. Il a convoqué cet homme d'Ardouan et s'est mis à l'interroger. « Reviens sur l'histoire que tu m'as racontée hier soir. » Et l'autre de dire à Haman, « Si tu révèles cette histoire à quiconque, je mourrai sans recours. » Alors Haman lui a juré sous serment par le Dieu, « Je ne révélerai ton histoire à personne. » Comme il avait juré sous serment par le Dieu, le maire d'Ardouane est revenu sur le sujet dont il avait parlé la veille, disant « Depuis deux ans, Bazoum se rend sans cesse service à Bounou Mahadou. » Et cela, Dada, le Hatsianoum, Yashublim et Yaptunael, homme de Der, l'ont parfaitement entendu derrière la porte double. Donc l'astuce de Raman rappelle celle du dieu Enki dans le mythe de Atrahasis qu'on retrouve dans la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh. Ne pouvant avertir directement le Noé babylonien que le déluge avait été décidé par les dieux, Enki utilisa un stratagème. Il s'adressa à une haie en roseau, sachant qu'Atrahasis se trouvait derrière et entendrait des propos qui ne lui étaient pas officiellement destinés. Et donc on voit que le poète ne décrivait nullement une situation invraisemblable, elle est attestée dans la réalité par la lettre que je viens de lire. Ici, Raman a recours à trois témoins cachés derrière une porte pour éviter de se parjurer. Pascal aurait adoré cette histoire, lui qui dénonça avec la verve que vous savez, les contorsions des jésuites de son temps. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le cours de la semaine prochaine sera consacré à la question du serment et de l'ordalie. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.